on charge les ascenseurs, c'est des choses merveilleuses électroniques. Bon, moi je ne nie rien de tout ça, parce que je dis que c'est la première chose que nous enseigne la psychanalyse, c'est qu'on ne peut pas laisser marcher tout ça d'une manière nécessaire sans s'en occuper et décider qu'il y a des choses qu'on peut faire et qu'il faut faire, et des choses qu'on peut faire et qu'il ne faut pas faire. Moi, ma position, elle est celle d'Eschkein, qui dit « il ne faut pas faire la bombe » et qui écrit à Freud, ce qui montre que notre subjectivité, notre discours, a énormément changé depuis les années 30, et même les années 40, bien sûr, que le crime paranoïaque est devenu un crime de masse avec Auschwitz et Hiroshima, hein, que le paranoïaque Hitler, aussi bien que le paranoïaque McCarthy, Truman, bon, c'est Roosevelt qui a développé le programme avec Oppenheimer. C'est pas lui qui a décidé de donner l'ordre, il était mort de les envoyer. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire quelque chose, c'est tout ce que la chirurgie, elle ne veut pas faire de la compétition avec la médecine, avec la chirurgie, avec la chimie, avec la pharmacie. Non, c'est le problème, c'est que c'est très différent de décider de lutter contre la maladie et de prendre bien sûr des médecines nécessaires que de se conduire comme quelqu'un de mal élevé. Moi, j'appelle ça des mal élevés, des fous. Qui sont là, qui disent je suis malade, bon, ben, j'ai qu'à prendre des médicaments, et puis bof, je vais guérir. C'est pas comme... Les médecins savent tous que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est ça qui s'appelle la clinique. C'est que si le sujet n'est pas dans le coup, il n'y a rien à faire. Le sujet, regardez, il y en a qui préfèrent crever plutôt que de faire telle chose. Je sais pas, bon, c'est comme les anorexies. Je préfère mourir que de manger. On va bien nous raconter des histoires, on les gaffe comme des oies, ou bien on va nous raconter des histoires qu'ils ont peut-être, je sais pas moi, bientôt ils vont avoir un gène spécial de l'anorexie qui va leur faire qu'ils ont une allergie à l'alimentation orale et qu'il faudrait les nourrir par perfusion. Enfin, c'est de la connerie complète, vous voyez, c'est une méconnaissance, mais radicale, c'est vraiment une psychose. Ça s'appelle paranoïa, ignorance, bêtise, mal élevé. Donc l'éducation qu'on donne à nos enfants, c'est aussi très important. C'est mal élevé que de renoncer, de croire qu'on est un petit enfant chéri qui a tous les droits, et que du coup, à partir de... Vous voyez, moi je déteste le discours commercial. Je trouve que le commerce, c'est une très belle activité qui est faite par des gens, justement, qui sont responsables des produits qu'ils vendent, vous voyez. Quand, bon. Mais les mecs qui font du marketing, si vous comprenez, je trouve ça une horreur... idéologique, discursive, éthique. Hein. Les types qui sont fiers de vous vendre n'importe quelle cochonnerie parce qu'ils ont de la tchatch. Moi, la tchatch, c'est bien, mais il faut se retenir un peu. Non ? Bon, c'est ça le problème, vous voyez. Alors, bien sûr qu'il y a ce problème inverse de la démocratisation pour tous, mais là, faites gaffe quand même, justement, parce que quel prix paye l'employé ? Je vous dis, la deuxième chose que découvre la psychanalyse, c'est que quand il y a eu un tsunami pour tous ceux qui vont, mon ami Soussou ou autre, se promener au moment du mois de février, là en ce moment il fait froid à Paris, qui ont des billets d'avion pour aller sur le bord de l'océan Indien, puis il y a un tsunami, tout à coup ils s'aperçoivent qu'il y a des milliers de morts. Il n'y a pas que les Européens, il y a aussi des gens sur place. Alors ils s'inquiètent des gens de l'homme, ils envoient de l'argent. Réaction thérapeutique négative typique. Hein. C'est des fous, déresponsabilisés, qui vont voir Freud en lui disant « Docteur, soignez-moi, et puis moi, j'attends. » Et Freud lui a montré que ça. Ça lui a fait inventer réaction thérapeutique négative. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Amortissement de l'analyse, il n'y a plus d'analyse, bon ça c'est déjà du délire. Il n'y a même plus de transfert, il dit. Le transfert aussi peut s'amortir, et c'est remplacé par la culpabilité. Hein, pourquoi? Parce que c'est la démission. La réponse sur moi, c'est propos sur la causalité psychique. La différence entre la folie et la causalité psychique. Il y a quelque chose qui n'est pas nécessaire, la causalité psychique, c'est pas nécessaire. La folie, c'est la nécessité. Ça marche comme le surmoi, ça marche comme de la musique. Si vous démissionnez, si vous êtes un type ou une bonne femme mal élevée, ça veut dire gâté, les enfants gâtés, ils méritent toujours des coups de pied au cul, encore aujourd'hui. Vous voyez ? Et regardez, on en a élu un, là. Vous avez vu, le fils Bedos, il a dit que c'était un VRP cocaïné qui s'était payé la France pour draguer une chanteuse. Alors on dit que c'est insultant pour le président. Mais c'est vraiment ça, c'est des mal élevés, c'est des gros mal élevés. Et il mérite que des fessées. C'est, bon, même pas se faire comme Mussolini, pendre par les couilles ou les pieds, je ne sais pas. Bon, le point, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui s'appelle la contingence. Qu'est-ce que c'est la contingence? C'est pas la croyance, la contingence. C'est que si vous voulez résoudre un problème de mathématiques, c'est pour ça que vous n'en faites pas, et que vous ne frottez pas suffisamment à ça, c'est que vous ne pouvez pas savoir quand vous allez trouver la solution. Ça va venir à un moment. Regardez, lisez Poincaré, même si c'est très mauvais sa théorie psychologique, la psychologie de Poincaré, c'est acheté à la poubelle. Hein. Bon, mais lisez son article, pour Poincaré, il est l'enfant de son siècle, de son temps, il était très très gravement atteint déjà à la fin du 19e.
Le politique ou le physicien?
Non, pas le président, l'autre, le mathématicien. Poincaré, il a écrit un article sur la psychologie du mathématicien, mais il raconte une chose, comment il découvre la solution à un problème à propos des équations diophantiennes. Et il a laissé son travail à Paris, il a dû partir pour donner une conférence, il a laissé son travail en chantier sur son bureau, et il arrive dans la ville où il doit donner sa conférence, et au moment de monter dans le bus, il lève le pied, il met le pied sur le marchepied du bus, et à ce moment-là, il trouve la solution du problème qu'il avait bossé avant. C'est pour ça que les mathématiciens, c'est des gens, il faut, pour être un bon mathématicien, il faut être à la fois tenace et paresseux. C'est très difficile, c'est très spécial. Il faut intégrer la loi de la parole collective dans son intimité en matière d'écriture. C'est-à-dire que si vous commencez à jouer au poker avec les équations quand vous jouez, quand vous faites des calculs, si vous voulez tricher en disant l'équation, le papier va pas le voir, vous n'allez pas faire beaucoup de mathématiques intéressantes. Ça, je vous promets, vous n'arriverez pas tellement à intéresser quelqu'un avec vos mathématiques. Ça oblige à une honnêteté intellectuelle. Ça s'appelle l'esprit scientifique, les mathématiques. Et l'esprit scientifique, c'est la reconnaissance que la contingence existe et donc il y a quelque chose qui s'appelle la révélation. C'est une révélation absolument laïque, c'est pas du tout une croyance en un agent de cette révélation. Il se trouve que là, vous ne pouvez pas savoir quand ça va là. Lacan, il a modifié les modes, la logique modale, au lieu de faire une logique modale mécanisée en cybernétique à partir des portes automatiques qui s'ouvrent avec des cellules électromagnétiques et qui fonctionnent comme le 0-1 de l'algèbre de Boole. Lacan, il est extraordinaire, voyez-vous, il balade son sujet, son public, et nous, ils vont se faire balader encore pendant des années s'ils sont toujours aussi méchants, bêtes et crétins. Parce que, regardez, Lacan, il explique que justement, c'est pas mécanique, et il est un grand aficionado de l'algèbre de Boole. La mathématique dialectique dont il parle dans la chose freudienne, je vous dis que c'est de l'algèbre de Boole. Et l'algèbre de Boole, elle a un modèle mécanique. C'est un anglais, Boole. Les anglais, c'est des gens. Depuis Newton et l'industrialisation, c'est même pour ça que Hitler a existé. Hein, parce que l'idéalisme allemand, ça c'est Léo Strauss qui explique ça très bien. L'idéalisme allemand, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'idéalisme allemand, c'est pas le mécanisme. Si le monde devient mécanique, c'est les Anglais. Hein, si le monde est dominé par l'industrie anglaise, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous, on préfère tout détruire. C'est le nihilisme allemand. Et c'est comme ça que Léo Strauss explique Hitler. Moi, je trouve que dans l'explication de Léo Strauss, c'est pas très convaincant. C'est pas suffisant, mais il y a de l'idée. Parce qu'il dit, Léo Strauss, il dit en Europe, il y a deux idéologies, il y a deux courants philosophiques importants, c'est l'idéalisme allemand, hein, le Geist, l'esprit allemand que Heidegger va essayer de faire remonter jusqu'aux Grecs, avec la langue. Et René Char lui dit, c'est magnifique votre travail, vous remontez la langue en cru. C'est une belle formule d'un poète, René Char. Et d'accord, mais selon le problème, c'est des idéalistes allemands, ils peuvent devenir nazis. Parce que justement, ils ne tolèrent pas le mécanisme anglais. Alors que les Anglais, on ne peut pas les imiter. C'est ça que les Américains ne comprennent pas, les Hollandais non plus. Ils sont passés, la Hollande, elle est passée comme le bouddhisme sur la Chine, la Hollande, elle est passée sur l'Angleterre. Et puis elle est allée s'échouer comme ça à la Nouvelle-Amsterdam. Ça s'appelle New York aujourd'hui. C'est les Hollandais, c'est les plus grands impérialistes, c'est les Hollandais. C'est des gens formidables, les Hollandais. C'est les héritiers de la Hanse du Nord, d'un remake de Venise en Méditerranée, qui était quelque chose aussi, hein, Venise en Méditerranée. Avant, justement, quand ils ont eu affaire à se bagarrer avec les Arabes, les musulmans qui ont commencé à naviguer sérieusement. Donc, vous voyez, les Hollandais, c'est des gens formidables. Mais ils ont et les Anglais aussi, mais on ne peut pas imiter les Anglais. Les Anglais, c'est des gens qui sont mécanistes, mais qui ont un quant à soi, justement. Ils connaissent quand même la contingence. Quand ils sont chez eux, home, sweet home, il ne faut pas venir les faire chier. Vous avez, la loi, elle peut. Vous voyez, les Anglais, c'est pire que Voltaire. Voltaire, il avait été obligé de s'acheter une maison à la frontière entre la France et la Suisse. Comme ça, quand les Français venaient l'arrêter, il allait dans sa partie suisse. Et puis quand les Suisses sont liquidés, ils étaient dans la partie française. Vous voyez, ils étaient malins. Donc les Hollandais, ils sont comme, les Anglais, ils sont comme ça. Chez eux, ils sont très respectueux de l'ordre, de la mécanique, de tout ça, la nécessité, mais ils sont snobs. Eh bien, les Japonais et les musulmans, ils sont snobs aussi. Ils ne veulent pas de l'industrialisation à tout craint. Il faut arriver à piger ça si vous voulez piger quelque chose au monde actuel. Vous comprenez? C'est quand même. Les Anglais et les Français, alors les Français, je ne vous en parle pas, eux, ils ont le cul entre deux chaises, ils ne savent jamais s'ils vont être idéalistes allemands ou mécanistes anglais. Alors, pourquoi les Anglais sont les plus grands lecteurs de Voltaire? Regardez, le club voltairien le plus important du monde est à Londres. Il n'y a pas en France un institut Voltaire aussi important que celui qui est à Londres et dont les membres sont des Anglais. Ils pigent très très bien Voltaire. Donc c'est des choses comme ça qu'il faut apprécier. Ça permet d'être un peu moins borné comme si, évidemment, si vous écoutez toute la journée la radio, la télévision, et si vous n'avez que le journal, il y a des chances qu'on vous bourre le mou un maximum. Vous voyez, aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi Einstein, l'inventeur de la relativité, est allé écrire à Freud pourquoi la guerre. C'est vrai que Freud ne répond pas tout à fait à la question. La réponse, elle est dans Lacan. Parce que la question d'Einstein, c'est mais écoutez, pourquoi la guerre, mais surtout, il a pigé que dans la psychanalyse, c'était le sujet qui était remis en position de responsabilité. C'est le sujet qui. Et regardez tous nos pseudo-escrocs prétendus cliniciens, ils sont tous là en train de nous larmoyer. Oh, vous êtes malheureux, venez chez moi, ça va vous faire du bien, je vais vous réconforter. Regardez ça un peu, comment c'est ce qu'ils appellent clinique. Ils ont voulu transformer la psychanalyse en travailleur social. Bon, les psychanalystes en travailleurs sociaux, parce que les psychiatres, les médecins, tout le monde est mis en demeure de devenir employé. Regardez l'Angleterre. C'est l'État qui s'occupe de la médecine. Regardez comment est devenu le psychanalyste en Allemagne et en Italie, c'est l'État. Bon. Les Français, pareil. Bon, sauf qu'ils veulent encore racler. Ils espèrent pouvoir ratisser l'arbre. Voyez, on fait le département de Vincennes, on va faire de la formation pour psychologues, on va leur prétendre leur vendre une soi-disant formation clinique à des psychologues, formation clinique qui n'aurait pas à l'université. Pourquoi elle serait à l'université dans Vincennes, mais dans un département de psychanalyse? Pourquoi? C'est quand même bizarre que pourquoi l'expérience clinique des psychologues devrait être délivrée par des officines privées, comme les associations de psychanalyse? C'est ça les psychothérapies. C'est dans les textes, regardez, ils sont allés tous se mélanger comme ça au ministère de la Santé pour espérer avoir une loi et des décrets qui soient leur soit favorables. Mais moi je vous pose la question, pourquoi l'État donnerait une formation psychologique, universitaire à des psychologues, hein, et ils auraient besoin d'une formation clinique mystérieuse et qui en plus est délivrée par des instituts, des officines privées comme ça, un peu mystérieuses, qui ne sont pas loin de sectes. Hein. Non mais, moi je vous pose la question, c'est comme ça qu'il faut poser le problème. Bon, alors là-dessus, la réponse, elle est que le malin des malins, là, le meunier, lui, il a inventé le truc génial, le département de Vincennes est devenu formation clinique pour les psychologues, hein, avec la loi, machin, le chose, et donc, ça, on va faire une formation de psychologue, mais une formation clinique, attendez, et l'autre côté, et de l'autre côté, il invente l'université populaire Jacques Lacan pour ceux qui sont déjà pris au piège de l'orientation lacanienne et qui sont déjà dans le mouvement mondial, n'est-ce pas, et qui veulent avoir une formation, mais alors elle sera psychanalytique. Donc vous voyez, c'est ratissé large quand même. Et alors, évidemment qu'il y a quelque chose qui s'appelle la cure, qui serait soi-disant cette cure psychanalytique qui serait la merveilleuse formation clinique pour psychologues, médecins, psychiatres et tout ça. Bon, arrêtez de moquer les gens. Le problème, il ne faut pas se moquer des gens, c'est quand même une escroquerie monumentale. Moi, je dis que la cure n'est pas une formation. La cure didactique n'est pas une formation. Pour Lacan, c'est très clair. Quand Lacan parle de la formation des analystes futurs, il parle de l'enseignement de la psychanalyse qui peut avoir lieu à l'université. Il n'y a pas besoin de faire une université populaire avec Lacan. À l'université, où on enseigne les études freudiennes et lacaniennes qui n'ont pas à avoir honte de se frotter au département de mathématiques, au département de linguistique, au département de physique, au département de sociologie, au département de n'importe quoi. Et c'est même beaucoup plus intéressant que la psychologie et la sociologie. Bon. Et au département de philosophie et tout ça. Les études freudiennes et lacaniennes. Moi, je fais dans topologie en extension et maintenant à l'université à Buenos Aires et à la Kennedy. C'est l'université Kennedy qui a le courage politique de m'engager comme étranger. Et je participe de la formation. De formation, je suis dans un département maestria de psychanalyse, et je fais des cours de topologie, de linguistique. Je ne fais pas de la psychanalyse, je fais une formation. Je donne un enseignement, aussi bien à l'université que dans le privé. Ça, j'ai rien contre. Regardez, j'ai proposé à la lettre lacanienne de faire une formation de topologie pour les membres de l'association et même les autres. Tout le monde peut venir le jeudi, deux fois par mois, le deuxième et le troisième jeudi, je donne un cours de topologie dans la lettre lacanienne. C'est rien de mystérieux, de tarabiscoté pour essayer de faire escroc. C'est quand même incroyable. Bon. Et alors, par contre, je prétends que la cure, ça n'a rien d'une formation. C'est pas une formation. Lisez Lacan, lisez dans la chose freudienne, lisez dans ces années-là, la direction de la cure. Vous allez voir ce qu'il décrit la formation chez Freud, celle que Freud a voulu à l'université et la formation qu'il lui propose. C'est dans la chose freudienne, dans les dernières pages. Bon. Et là, il parle très très bien des communistes de l'époque et des libéraux. Et c'est assez intéressant parce que c'est très politique son discours dans les dernières pages de la chose freudienne. De la chose freudienne. 57. Hein. Bon. Donc, moi je pense qu'il y a la cure est une institution à soi tout seul, elle n'est même pas dans la dépendance d'une organisation professionnelle. Bon. C'est des choses comme ça qu'il faut rappeler. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle la contingence, et dans la psychanalyse, c'est ça qui. On ne peut pas prévoir. C'est quoi la contingence ? L'homme au loup. Tout le monde est là à se gratter la tête, l'homme au loup, alors ils veulent savoir si c'est psychotique, pas psychotique, machin, c'est ce que Freud. Bon. Freud, il est courageux et formidable comme toujours. Il écrit, il raconte ses conneries. Il a fait une connerie. Il a dit à l'homme au loup, dans 15 jours, c'est fini. Ça veut dire, je connais la nécessité. Eh ben non, c'est la contingence. Donc il a écarté la contingence, parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, c'est même pour ça que quand quelqu'un me dit au revoir, je m'en vais, j'ai fini mon analyse.
Oui, j'avais une histoire avec Génie Lemoine, qui était amusant comme ça. Elle disait, quand quelqu'un me téléphone, elle me dit, oui, j'ai fini mon analyse, je ne viens plus vous voir. Alors elle disait, mais écoutez, pour moi, votre analyse n'est pas finie. Très mauvaise réponse. Pour moi, on s'en fout d'elle. Pourquoi ? Ce serait l'analyste qui dirait « Pour moi, c'est fini ou c'est pas fini ?» C'est l'analyste qui n'a rien à dire, savoir si c'est fini. Ce qu'on lui demande, c'est de ne pas se mettre en travers pour arrêter, pour empêcher que ça continue. Jusqu'où le type ou la dame, elle veut aller ? Vous voyez ? Le seul choix d'un analyste, c'est ça. C'est trouver un analyste qui ne se met pas en travers de votre quête qui est la vôtre. Bon. Et le fait de dire « Continuez », c'est un problème éthique. Je ne peux pas dire quand ça va se finir, et donc je ne peux même pas vous croire sur parole, donc je continue. Mais il ne faut pas bloquer la porte avec son pied, il ne faut pas faire un verrou une fois que le patient est rentré dans le cabinet. Il faut qu'il puisse sortir. Seulement le problème, c'est lui qui doit sortir, c'est lui qui doit décider, même contre votre avis. C'est quand même une émancipation. La psychanalyse, ce n'est pas une domination, une soumission. Vous comprenez ? L'analyste, pourquoi est-ce qu'il doit dire « Revenez demain ». Tout le monde se marre dans Lacan, c'est des trucs comme ça. Le type, c'est très connu, les histoires de Lacan. Le patient qui dit à Lacan « Bon, j'ai fini mon analyse, j'arrête, je ne viens plus vous voir, tout ça. » Lacan dit « Oui, très bien, ça. Bon, ça, vous me levez 400 balles. Et puis, salut, à demain. » Il y en a qui sont venus, d'autres pas. Mais justement, c'est à l'analysant de décider de. C'est pas des gags, ça peut paraître marrant, si on, ça dépend comment on raconte, mais le rôle de l'analyste, c'est de dire allez-y. Et moi, je vous promets que je n'aurais jamais fait une analyse avec quelqu'un d'autre que Lacan. Pourquoi ? Parce que je sais que tous les autres, ce sont des petits enfoirés. Ils m'auraient arrêté avant. Ils m'ont dit, oh là là, Lacan, c'est dangereux, il est paranoïaque, c'est la paranoïa. Non, moi, je savais qu'avec Lacan, je serais même en retard par rapport à ce qu'il faisait. Il y a des trucs que j'ai pigés, j'ai mis 5 ans, 10 ans, 15 ans à piger des trucs que Lacan m'a dit ou qu'il a dit dans son séminaire. Et j'en ai encore plein à mettre à jour. Je vous promets que Lacan, il était un lièvre qui filait devant. Bon, et c'est ça qui était bon, c'est ça qui était bien. Moi, j'ai jamais vu. Oui, les gens m'ont dit, des Lacaniens me disaient, mais non, on n'est pas des Lacan. Ce sont les écrits de Lacan, c'est pour nous. Si vous êtes un bidasse, un premier venu, un ignorant et tout ça, vous devez. Ça, moi j'appelle ça les analyses de la bande dessinée. C'est même pas la bande de bonus, hein, c'est la bande dessinée. J'ai que la voile, il y avait dans la salle d'attente, il y avait que des Spirou, des oraux et des trucs. Et les livres du Champrodien, ils étaient enfermés dans des vitrines avec des clés.
C'est normal.
Alors, maintenant, c'est différent. Lui, il avait foutu des trucs, des éditions du Seuil partout, mais les gens ne les lisaient pas. Non, mais moi, je vous promets que c'est pour moi, c'est un scandale, cette histoire de raison, de logique. Donc, il faut pas aller trop vite, mais quand même, la question, c'est où peut-on parler sérieusement, sans être contre la psychanalyse, sans vouloir la détruire, au contraire, en disant bien en quoi elle est détruite actuellement par des gens qui prétendent la représenter, la défendre. S'ils veulent prendre la responsabilité de la représenter et de la défendre, qu'ils l'apprennent, mais moi je les attaquerai à ce titre. Moi je n'attaque pas les analystes, hein. Les analystes c'est les saints, il ne faut pas les attaquer. Mais les analystes c'est quoi, vous voyez ? Qu'est-ce que c'est qu'un analyste ? C'est même ce que c'est, tous ces gens-là ne comprennent pas. Un analyste c'est quelqu'un qui a des patients. Point final. Il n'y a rien d'autre à aller voir et à aller dire. Bon. Seulement le problème c'est qu'il y a un axiome supplémentaire. À charge pour lui, l'analyste en question, d'avoir fait le nécessaire. C'est-à-dire d'avoir fait, en particulier et d'abord, son analyse et d'être dans son analyse et continuer à être dans son analyse et d'être suffisamment en avance pour ne pas se mettre en travers de ce que veulent faire les autres. Alors voilà, seulement ça, c'est trop compliqué pour les gens de la nécessité. Parce que vous voyez, c'est complètement contingent le fait que quelqu'un ait fait son analyse indépendamment de l'avis de tout le monde. Et c'est à ce titre-là qu'il reçoit quelqu'un. Bon, les autres, ils ne comprennent pas. Il faudrait qu'il y ait un label, un diplôme, une manière d'évaluer, comme on dit maintenant. Mais c'est rien du tout, même l'évaluation dont nous a cassé les pieds le Meunier, là, et Milner. Ils ont fait un séminaire sur l'évaluation. L'évaluation, c'est un truc. Et ça, c'est l'étape d'évaluation. C'est l'étape de vérité. L'étape de vérité, c'est l'évaluation. Bon, c'est, ça vient le mot évaluation. C'est bien un mot emprunté à la logique par les escrocs. Et pour ce que j'appelle les escrocs, c'est les gens qui font de la sociologie ou du management, des trucs comme ça. Quoi. C'est-à-dire, on pique dans, ou qui vendent des téléphones. Les mecs, la société de la communication. Vous avez Davidson, qui est un grand logicien. On peut ne pas être passionné par la logique de Davidson sur la propos du nom propre. Bon. À propos de la vérité de Tarski, par exemple. Il y a un très bon petit livre de Rivin là-dessus, qui montre en quoi Davidson, ça ne va pas très très bien son truc sur Tarski. Qu'est-ce qui ne va pas chez Davidson ? C'est ce que je veux vous dire. Qu'est-ce que ne comprend pas Davidson en logique et tous ces gens qui font dans la nécessité ? Regardez, quand il veut étudier la vérité chez Tarski, la vérité de chez Tarski, c'est simple. Hein, il y a des conditions d'emploi du prédicat de vérité. Le prédicat de vérité, c'est dire ceci est vrai, telle phrase est vraie. Bon, c'est le prédicat de vérité. Condition d'emploi. Cette phrase est vraie est équivalent, c'est la phrase qui dit cette phrase est vraie. La phrase ici, en question, elle vient comme sujet de la phrase, cette phrase est vraie. Hein, la phrase P est vraie, d'accord ? C'est équivalent à la phrase P. Vous dites, chez Tarski, c'est I de X égale X. C'est la fonction identique. Quand vous faites ça dans un ensemble, par exemple sur 1, 2, 3, hein, quand vous faites la fonction identique sur 1, 2, 3, vous faites correspondre à 1, 1, à 2, 2, à 3, 3, c'est pas inimaginable.
comme petite écriture, ça. Hein? Personne n'en a fait le principe d'identité. Les logiciens, les philosophes, ils disent que le principe d'identité, c'est x égale x. Il y en a qui ont des scrupules, ils disent c'est x égale y. Bon, il y en a des tartines, vous pouvez en lire, il y en a plein. C'est très intéressant d'ailleurs à lire. Il faut lire ça pour en voyant en quoi ils se trompent. Personne n'a pensé que c'était ça. Hein, vous voyez, i de x égale x. Avec ça, vous figez, voilà nos grands cliniciens. Avec ça, vous pigez pourquoi les enfants qui rentrent dans la phase phallique ne sont pas cons. Eh oui, et il a fallu à Freud toute sa vie, jusqu'en 23, pour mettre ça au cœur de son œuvre et finalement le traiter dans les dernières années de sa vie, la phase phallique et le complexe de castration. Parce que ça, c'est tout bête, regardez. C'est bien i de x égale x. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que i de 1 égale 1, i de 2 égale 2, i de 3, et puis vous pouvez en mettre des tonnes, hein, vous pouvez même écrire ça de n dans n. Hein. Ça, c'est pas l'infini, c'est pas le dénombrable, c'est pas les nombres pairs, c'est pas les nombres impairs, c'est tout con. Vous avez une application d'un ensemble dans un ensemble, même infini, à chaque élément, vous faites correspondre le même. Ça donne ça, non? Et ça, les mathématiques, ça commence quand vous remplacez tout ça, parce que vous êtes paresseux, vous en avez marre d'écrire ça à l'infini, hein. Et vous apercevez même que vous pouvez l'écrire à l'infini comme ça, regardez. Même si l'ensemble est infini, vous pouvez dire que c'est du i de x égale x. Ça s'appelle une fiction d'écriture, mais c'est un mathème. Mais ça, c'est déjà... Qu'est-ce qu'on a remplacé? Des constantes par des variables. La constante qui est la même des deux côtés du signe égal, elle devient ici une variable x. Et bien ça vous permet d'écrire la fonction en mathématiques. C'est ça les mathématiques. C'est l'invention contingente de ce genre d'écriture. Bon. Mais grâce à ça, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez quand même que ça, en logique de Boole, comment ça s'écrit la négation? N de x, la négation. La négation, c'est pas n de x, c'est pas x, c'est x plus 1. Là, vous allez apprécier la négation. Si vous comparez l'identité et la négation, vous allez pouvoir apprécier la différence entre les deux, et vous allez même pouvoir apprécier l'identité. L'identité, regardez, c'est i de x égale x. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre la négation et l'identité? C'est ça que disent les enfants. Comment ils font pour s'apercevoir de ça et rentrer dans le langage à partir du trauma, c'est-à-dire à partir du malentendu des parents? Le malentendu des parents, ce qui les déçoit, c'est qu'ils ne comprennent pas ça, les parents adultes. Ils sont en plein là-dedans, mais ils ne s'en rendent pas compte. Qu'est-ce que ça veut dire i de x égale x? Ça veut dire que x, n'est-ce pas, est dans une fonction, hein, comme la neige est blanche est vrai, la fonction c'est est vrai, x est vrai. Bon, la phrase la neige est blanche est vrai, ben, la neige est blanche, elle rentre dans la fonction. N'importe quelle phrase rentre dans la fonction est vrai. Bon. Et bien, il se trouve qu'en matière de vérité, d'après Tarski, c'est égal à la fonction identité, parce que si quelque chose est vrai, hein, c'est équivalent à cette chose. Pourquoi? Regardez, si c'est faux, de dire que le faux est vrai, c'est faux. Donc les deux sont faux. Et dire que x est vrai, si x est vrai, dire que x est vrai, et, ben, c'est vrai. Et du coup, c'est égal à x, puisque x est vrai. Donc que ce soit vrai ou faux, n'importe quelle phrase, écoutez, s'il n'y a pas un truc universel, c'est un truc vraiment universel. Cette façon d'écrire, ça vous fait rentrer dans une logique. Je parle de logique, hein, à part un calcul qui est beaucoup plus précis que toutes les intuitions et les approximations, mais qui est très intuitif pour les enfants. Comment est-ce qu'ils arrivent à attraper cette histoire de fonction phallique et de castration? Parce qu'on va voir que ça introduit immédiatement la castration. Vous avez donc les enfants qui découvrent ça quand ils s'aperçoivent que les parents sont des mauvais politiques, sont des mal élevés. Bon, ils sont psychotiques. Ça fait psychotiques, en général, c'est des mal élevés principalement. C'est des mal élevés, mais pas, c'est pas la bonne éducation de la culture bourgeoise, il ne s'agit pas de se tenir bien à table. Hein. C'est des mal élevés parce que ce sont des sales gosses, prétentieux et mal élevés parce qu'on les a gâtés. Bon, c'est des enfants gâtés. Hein. C'est à peu près tous les habitants de tous les pays développés quand ils voient que les autres ils sont en train de vivre encore au Moyen-Âge et dans la boue. Bon, écoutez, excusez-moi, mais c'est quand même insupportable. Moi, je ne supporte pas les compagnies aériennes. C'est le lieu de la ségrégation la plus formidable qui soit. C'est pire que le colonialisme. Bon, si vous êtes membre du club élite, vous allez pouvoir avoir des avantages. Ah non, mais il faut entendre ce discours. Hein. Il faut s'en rendre compte. Hein. Si vous êtes un gagné, moi ça me rend pas fou. Je m'en fous. Je prends l'avion. C'est un très bon moyen pour se déplacer. Seulement quand même, quel discours pour arriver à faire fonctionner ce truc-là? Ça, là, il faut s'interroger. Donc je vous dis, qu'est-ce que ça donne ça? Que ce soit vrai ou faux, alors bon, en logique, on fait juste fonctionner ça comme ça, entre 0 et 1. Si 0 c'est 0 et si 0 c'est 1, si x c'est 0, ça fait 0, et si x c'est 1, ça fait 1. Vous voyez, la fonction i, elle est comme ça. Bon, ça c'est le faux, ça c'est le vrai. Si x est faux, de dire que x est vrai, c'est faux. Si x est vrai, hein, de dire que x est vrai, c'est vrai. Bon. Vous n'avez qu'à remplacer i par... Tenez, ça c'est un truc vachement de boule, regardez. Il remplace x, i de x par x égale 1. Seulement voilà, ça fait une drôle d'équation, regardez. Ça fait une drôle d'équation, celle-là. Il y a deux signes égales qui n'ont pas la même, qui n'ont pas le même statut, voyez-vous. Il y en a un qui est dans la parenthèse, et ça, il faut être mathématicien maintenant. Devenir mathématicien, enfin, réfléchir aux mathématiques, c'est réfléchir au statut de cet x ici, parce que ça ressemble aux espérances mathématiques, vous voyez. C'est une fonction, i de x égale 1. Ce signe égal, c'est ça qui a inspiré Boulle, hein, pour faire... Lisez les lois de la pensée de Boulle, vous verrez. C'est les probabilités qui ont inspiré, qui ont permis à Boulle de faire ça. Bon. Mais x égale 1, qu'une équation soit égale à une variable, en algèbre classique, ça ne se fait pas. Mais pourtant, si, ça a été justement une des nouveautés du calcul des probabilités, avec l'espérance mathématique. Ah, tiens. Donc, vous voyez, les mathématiciens, ils n'ont pas de préjugés. Voilà, c'est une question de préjugés. Mais le problème maintenant, c'est comment construire ce mathème, parce que celui-là, il est très classique, celui-là, il est déjà vachement moderne, au sens 19e siècle. Hein. C'est au 19e qu'on a commencé à faire ça. Et Boulle, il a utilisé les probabilités pour arriver à découvrir son algèbre de la logique. Vous voyez le détour? C'est quand même à cause du mathème. Bon. Alors, en quoi ça nous concerne la psychanalyse et ça fait le clinique, là, au lieu de pleurnicher, là, soi-disant d'avoir une écoute, hein. Le problème, c'est de savoir lire, oui ou non. Et comme on ne sait jamais bien lire suffisamment, être analysant, c'est continuer toute sa vie à apprendre à lire, à s'améliorer sa lecture. Et qu'on ne vienne pas nous emmerder avec l'écoute. Les choses dites dans la parole, par la parole, comme les choses écrites, c'est des choses à lire. La différence entre le freudisme et tous les bandits et toutes les sciences et les sciences à la noix et les pseudo-sciences et les bouts de philosophie détachés, comme la psychologie ou la sociologie, qui deviennent des endoctrinements nuls, hein, eh bien, la différence entre le freudisme et tout ce qui prétend une science, c'est que la psychanalyse, c'est pas une science. Mais elle dit, voilà, s'il y a quelque chose à lire, c'est notre affaire. S'il n'y a pas quelque chose à lire, on s'en fout. Regardez Freud, même la télépathie, il dit, la télépathie, pourquoi ça n'existerait pas? J'en sais rien. Bon, la télépathie peut exister, mais moi ça ne m'intéresse pas, la télépathie. Ce qui m'intéresse, c'est que si on fait ça dans le cas de télépathie, où il y a quelque chose à lire, le désir est impliqué, oui, là, je veux bien m'en occuper. Bon. Et vous voyez, Lacan fait même une théorie de la télépathie qui est géniale. Réfléchissez à ça. Comment Lacan arrive à vous expliquer que vous avez des effets télépathiques, vous avez l'impression de télépathie, ça marche très très bien, de suggestion à distance, quand vous avez un analysant qui vous donne l'impression qu'il manifeste un phénomène de télépathie, eh bien, cherchez, grattez un peu, vous avez toujours un acting out d'un autre analysant du même analyste.